Un autre élément qu'on a vu lors des portes ouvertes et puis lors de l'atelier d'échange du 28 mai, c'est que des structures ont mis en place des panneaux d'affichage qui regroupent plusieurs informations, donc à la fois l'ensemble des offres d'emploi qu'il y a sur le territoire qui ont été publiées récemment, mais aussi les réussites en fait des salariés qui sont passés par la SIAE et notamment leur stage, leur CDD ou les CDI qu'ils ont signés pour que ce soit vraiment mis en évidence auprès des salariés qui sont en cours. De parcours dans la structure et ça a créé des dynamiques intéressantes. Alors, je cite encore l'association Génie qu'on a vue dans la vidéo et qui est présente ce matin, mais qui du coup nous expliquait qu'en fait ils faisaient aussi en plus un point ou deux points par mois pour expliquer, pour amener les salariés en cours de contrat dans la SIAE à valoriser en fait ce qu'ils avaient fait comme avancée positive. En les amenant à être vraiment sur cette dimension positive et de finalement identifier que chaque petite avancée était déjà quelque chose qu'ils pouvaient partager. Et ça génère quelque chose d'assez intéressant au niveau de la dynamique d'équipe pour les salariés qui deviennent finalement beaucoup plus fiers des chantiers qu'ils ont réalisés, mais aussi des actions qu'ils mettent en place pour l'accès à l'emploi. C'est quelque chose qui est proposé régulièrement, Nicolas, dans le programme SEB.
Oui, on commence à voir fleurir de plus en plus ces panneaux. Alors, chez les collègues d'Emploi 06 à Antibes, ils appellent ça le totem. Et dans le totem, il y a marqué en gros, en haut, une grosse flèche emploi durable. C'est le gros truc. Puis après, il y a dessous rencontrer des entreprises, développer ses compétences, et je ne sais plus quel est le troisième. Et puis dessous, ils ont des tas de post-it avec tous les gens qui ont trouvé du travail. Donc, Pierrot en CDD, Fatima en CDI, etc. Ce qui fait que quand un nouveau salarié arrive, ben, il est tout de suite dans l'ambiance, quoi. Si je viens là, c'est parce que c'est ça qu'on vise. Et puis, c'est réel, puisque il y a les noms des personnes et il y a l'entreprise dans laquelle la personne travaille, donc CDI chez le garage Total ou chez Intel ou chez etc. Et ça, oui, c'est une valorisation du travail fait par la SIAE, c'est une valorisation de ce qu'ont fait les salariés. Et donc, c'est une valorisation de celui qui arrive. Ben, tu es comme les autres, quoi. Tu es comme eux. C'est-à-dire que toi, tu vas y arriver comme eux. Et ça, c'est effectivement un élément qui booste. Ainsi, on a fait nous aussi des expériences. Vous proposez à une personne qui arrive chez vous pour la première fois dans une structure sur l'emploi, et dès la première rencontre, vous lui dites, mais tu cherches quoi, toi? Bah, du boulot. Mais tiens, j'ai trois offres d'emploi à te proposer. J'en ai trois à te proposer. On va le voir tout à l'heure dans les questions de quantité. Mais trois offres d'emploi à te proposer. Vous avez la personne qui est là. Mais là aussi, vous voyez physiquement la personne qui se redresse. Vous ne me connaissez pas et vous me faites confiance de suite? Ben oui, si tu veux du boulot, j'ai des offres, il s'avère que je les ai, ça tombe bien, ben, qu'elles correspondent à ce que tu m'as dit de tes atouts, ben, on y va, quoi. Voilà, ça c'est un facteur. Donc, on va revenir tout à l'heure sur la question de la quantité, de la réactivité, mais c'est effectivement cet élément de renvoyer du visuel. Le visuel est important dans la valorisation. C'est oral et visuel, c'est très important aussi.
Et il y a aussi des anciens salariés qui viennent témoigner aussi de leur parcours réussi et parfois jouer un rôle de tuteur vis-à-vis des nouveaux salariés. Et ça aussi, ça, c'est dans la même dynamique positive en fait qu'on retrouve dans les tableaux d'affichage. Alors un troisième élément qu'on a identifié dans les vidéos, Nicolas, c'est de permettre aux salariés de prendre des décisions pour lui-même et par lui-même.
Ah oui, c'est ça. Alors peut-être qu'on pourrait mettre celui-là sur le podium aussi. C'est-à-dire que sur le podium, on pourrait avoir oui, l'objectif, ça c'est sur le podium. La valorisation, c'est sur le podium. Et puis la décision, le fait que les gens décident. Alors là, ce mot est important, le mot décision. C'est vraiment un mot important, le mot décision, parce que c'est quelque chose qui va vraiment plaire aux gens et booster les gens. Et comme disait Frédéric, il a très bien dit, on avait une petite tendance quelque part à prendre leur place sur la décision. On avait une petite tendance à leur dire, ouais, non, c'est bon, tu peux y aller ou tu peux pas y aller, quoi. Et là, on a vu dans les SIE, enfin, on le voit souvent, mais c'est un paradoxe qui est merveilleux, qu'on lève. C'est quand on dit aux gens, mais enfin, aux équipiers, on est bien d'accord que c'est les gens qui choisissent. Alors là, tout le monde est d'accord. Oui, on est d'accord. Un des piliers SEB, un des principes SEB, que c'est les gens qui choisissent leur objectif. Oh, on est tous d'accord, on est à fond là-dedans. Puis à la réunion d'après, ah oui, mais un tel, il n'est pas prêt. On ne peut pas lui proposer une offre, il n'est pas prêt. Ah, alors nous, là, on se régale, on fait un grand sourire, on dit, attends, d'un côté, tu nous dis, c'est eux qui choisissent, et de l'autre côté, tu dis, il n'est pas prêt. Ah, ben, s'il n'est pas prêt, c'est que c'est toi qui es capable de mesurer s'il est prêt ou non. Où est ta machine à mesurer sa motivation? Où est ta machine à... En fait, là, on ne sait pas trop, quoi. On ne sait pas trop. Et la question qu'on pose à ce moment-là, et là je pourrais la poser à la quarantaine de personnes là, qui sont en train de travailler avec nous ensemble, c'est avez-vous déjà rencontré des surprises où vous n'auriez pas parié un copec sur une personne et puis finalement elle s'en est sortie? Alors ça peut être dans le monde professionnel, ça peut être dans le monde de l'emploi, mais ça peut être aussi dans le monde personnel, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On n'a pas de boule de cristal qui permette de dire que quelqu'un va réussir ou non. La seule chose qui nous permettra de le dire, c'est l'action, c'est de le mettre en situation. Donc dire elle est prête, elle n'est pas prête, on est en train de dire elle est motivée, elle n'est pas motivée, on est en train de prendre sa place. Fondamentalement, on est en train de prendre sa place. Si à la limite on disait, moi je ne suis pas prêt à l'accompagner, moi je ne me sens pas assez fort pour l'accompagner. Là c'est ma propre motivation, c'est moi qui peux l'analyser tout seul dans mon coin, pourquoi pas, à la limite. Mais c'est vraiment limite. C'est lui qui décide. Quand une personne arrive, voilà, ici, l'objectif, c'est l'emploi durable. Et puis ensemble, on va avancer. Il est possible que tu trouves un emploi durable dans 3 semaines. Il est possible que tu préfères te former avec l'encadrant technique et que tu restes 4 mois. Il est possible que ça soit un peu plus long parce que tu as vraiment envie de travailler sur un CQP, sur un truc avant de... Pourquoi pas? Et c'est lui qui décide. Mais si à un moment donné, j'ai un CDI qui arrive et qui correspond à une personne qui est là depuis 8 mois, voilà, je le présente à la personne et c'est à elle de décider. Et ça, c'est un facteur de motivation. Ça, c'est un très gros facteur. La décision, c'est toi qui décides. Et on travaille avec des missions locales, on travaille avec des SIAE, on travaille avec des PLI, etc. Et on pose cette question de rôle. Et aujourd'hui, les conseils missions locales, alors avec les jeunes, c'est encore plus ambigu avec les jeunes, hein, parce que quand on est conseiller, les jeunes, ben, ça peut être un peu vos enfants, ça peut être un peu, c'est des jeunes, quoi. Ils ne connaissent pas toute la vie. Bon, à 18 ans, ils ont déjà fait plein de choses, hein, pas s'inquiéter. Et donc là, on travaille avec les conseillers pour poser quelque chose de très clair sur les rôles. On pose très clairement, voilà, ton rôle, toi, jeune, et on fait la même chose avec les SIAE, hein, ton rôle, toi, salarié, c'est décider de là où tu veux bosser. Ça, c'est ton rôle, ça, c'est toi. Ton rôle, voilà, c'est de décider la zone sur laquelle tu veux progresser. Ça, c'est toi, ça, c'est ton job, c'est pas le mien. Moi, mon rôle, c'est de t'aider à y voir clair. Moi, je peux t'aider, je peux poser des questions pour que ta décision soit la plus judicieuse possible. Voilà. Et là, on clarifie. Mais mon rôle, ce n'est pas de décider. Et à un moment donné, quand le salarié ou le jeune vous dit « Mais là, qu'est-ce que j'aurais faire ?» On renvoie très factuellement, très clairement, c'est le rôle de qui de décider là ? Ah ben, c'est le mien. Ok, c'est ton rôle. Mon rôle, c'est quoi ? C'est t'aider. Alors, je vais te poser des questions, mais c'est ton job de décider. C'est à toi de décider si cette entreprise-là, tu y vas ou tu y vas pas. Et on va vérifier avec toi les critères, les idées. Sur quoi tu es compétent? Est-ce qu'elle est loin de chez toi? Est-ce qu'il y a un moyen de transport? Est-ce que ça va par rapport à tes conditions familiales, de garde d'enfants, etc.? Ah ben là, j'ai un problème de garde d'enfants. Ok. Est-ce que tu peux lever ces problèmes de garde d'enfants? Est-ce que moi, je peux, en tant qu'encadrant, en tant que CIP, lever avec toi ce problème de garde d'enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et tu décides. Tu veux y aller, tu veux pas y aller? Je veux y aller. Alors, on met en place des stratégies. C'est toi qui veux y aller. Donc, le fait que ce soit les gens qui décident, dire aux gens, vous êtes des décideurs. Vous voyez bien que ce mot décideur, il est très peu utilisé dans les RH. Hein. Dans les RH, on utilise le mot de responsable. T'es responsable. Alors, le mot responsabilité, c'est un magnifique mot savonnette. J'adore ce mot. Mais alors, qu'est-ce qu'il est savonnette? Alors, pour faire simple et un peu caricatural, l'employeur vous confie une responsabilité. Quand ça marche, il dit, bah oui, c'est moi qui ai confié la responsabilité. Et quand ça marche pas, il dit, oui, c'est toi qui es responsable. Et puis, quand il a envie de reprendre le pouvoir, il dit, non, c'est moi qui décide. Ok. Donc là, on pose des trucs très clairs là, avec les employeurs en disant, bon, attendez, monsieur l'employeur, là, c'est vous qui décidez ou c'est votre cadre ou votre salarié, là? C'est qui décide? Et qui est responsable, c'est difficile à définir. Qui décide? Alors là, c'est extrêmement clair. Là, pour faire simple, on demande aux employeurs, là, vous déléguez ça à votre cadre. C'est le cadre qui décide? Oui, non. Alors là, on a une petite hésitation. Bon, oui, d'accord. Puis on pose une dernière question. Est-ce qu'on est d'accord que c'est plus vous qui décidez? C'est plus vous qui décidez là-dessus. Ah ben non, quand même, c'est moi qui décide. Ah ben, il faut savoir, quoi. C'est lui ou c'est vous. On ne peut pas être deux à décider, là. On va se marcher sur les pieds. Eh bien, avec le salaire en transition, c'est la même chose. Qui décide? Voilà. Alors, il signe un contrat. Lui va décider s'il rentre dans la SIAE, s'il rentre dans l'association intermédiaire, s'il rentre dans le TTI. Il va produire sur un poste de travail chez un client. Il va être mis à disposition. Il va bosser. Ça, c'est obligatoire. Mais il s'est engagé à le faire. Donc, ça fait partie du contrat avec lui. Oui, c'est obligatoire. Il va accepter des immersions à l'entreprise. C'est obligatoire. Il va accepter de développer ses compétences. Ça, c'est obligatoire. En revanche, travailler comme aide à domicile, ou travailler comme pompiste, ou travailler comme magasinier, ça c'est lui qui décide. Travailler chez Leclerc ou chez Carrefour, ça c'est lui qui décide. C'est pas nous qui décidons. Développer telle compétence ou telle compétence parce qu'il a rencontré un employeur qui lui a dit qu'il faudrait développer telle compétence, c'est lui qui décide. Et souvent, on entend parler d'évaluation des salariés. Et alors, quand l'équipe nous dit on va évaluer les salariés, aïe, 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 on commence à être dans la zone de décision du salarié. Nous, ce qu'on va plutôt préconiser dans cet emploi pour motiver la personne, non. L'équipe va aider la personne à s'auto-évaluer. L'équipe va aider la personne à travailler sur des grilles d'auto-évaluation. L'équipe va proposer des grilles à la personne pour qu'elle puisse s'auto-évaluer parce que c'est elle qui décide si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Ce n'est pas à moi de décider si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Plus la personne va décider, et là, il faut aider la personne à y voir clair. Il faut l'aider. Si elle a un jugement qui est erroné, selon nous, mais il faut travailler avec elle. On peut lui donner notre avis. De mon point de vue, ce n'est pas tout à fait ça. Mais si je commence... Oui, là, il y a des glissements. C'est-à-dire que quand je commence à... Mais quand on dit on évalue la personne, on ne décide pas à sa place. Quelque part, à mon avis, on commence à décider à sa place. Si par contre, elle évalue elle-même ce qu'elle fait, oui. Si elle évalue que dans cet entretien avec l'employeur, dans ce job qu'a fait avec l'employeur, elle a été performante sur ce qu'elle a dit là, et qu'éventuellement là, elle a sorti une petite connerie qui n'est pas favorable, il vaut mieux que ce soit elle qui le repère. Par contre, moi, il faut que je lui pose des questions, il faut que je la valorise d'abord, il faut que je l'interroge, mais c'est elle qui décide. Ça, c'est un très gros facteur de motivation. Et vous voyez, dans la vie de tous les jours, c'est très simple, hein, dans les entreprises. Souvent, on entend les patrons qui nous disent « Ouais, mais les salariés ne sont pas très motivés. » D'accord ? Mais vous les appelez comment, les salariés ? Des décideurs ? Ah non, les décideurs, c'est les décideurs économiques, c'est les décideurs politiques. Ah oui, d'accord. Et les salariés ? Bah, c'est des exécutants. Ok, d'accord. Si je vous interroge, vous, là, les 40 personnes, là, vous êtes content d'être exécutant ? Ça vous motive ? Ça vous booste ? Ça vous donne envie d'avancer ? Bon, je ne vais pas faire de sondage, mais bon, vous connaissez la réponse. Non, si je vous dis vous êtes des décideurs, vous décidez en tant que responsable de la dette du coin, vous décidez en tant que responsable de la SIAE du coin, vous décidez en tant qu'encadrant technique, vous décidez en tant que salarié en transition, ben, c'est vachement plus moteur. Et quand les gens décident de quelque chose, ce n'est pas compliqué, là, les effets sont très clairs. Quand les gens décident de quelque chose, ben, ils ont beaucoup plus tendance à le faire que si on leur a conseillé de le faire. Ça, c'est clair. Si vous êtes dans une équipe et qu'on décide à l'unanimité de quelque chose, qu'on a eu le temps de travailler, qu'on a fait un compromis, qu'on a fait un consensus, qu'on décide tous ensemble dans la même chose, la chose se mettra beaucoup plus en place que si c'est le directeur qui a tranché avec des oppositions. Ça, c'est factuel, il y a des enquêtes, c'est très clair. Donc, plus on fait partager les gens à l'élection, plus on leur dit qu'ils décident, plus on a du résultat.
Alors, il n'y a toujours pas de questions, mais je sais, pour avoir rencontré pas mal de SIAE, que pourtant, il y en a. Et notamment sur la question de l'entreprise et de si un salarié a envie de répondre à une offre d'emploi ou a envie de faire un stage dans une entreprise, on a toujours un peu peur, alors c'est le terme qui revient le plus, hein, mais de se griller vis-à-vis de l'entreprise parce que la personne ne serait pas prête. Ce qui revient dans les termes qu'on a entendus depuis le début, en fait. On a cette peur finalement de mettre un peu en difficulté le salarié, quoi. Et l'entreprise.
Ah oui. Eh bien, c'est pas faux cette peur, parce que ça arrive. Hein. Ça arrive qu'on se peut griller l'entreprise. Oui, ça arrive, on peut se griller une entreprise. Ça, c'est sûr, une fois, deux fois. Mais si on va pas en entreprise, alors on se grille des salariés. Grille des salariés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y en a cinq de moins en emploi durable à la sortie. Alors pour moi, il n'y a pas photo. Il vaut mieux se griller. Si on pousse dans l'extrême, alors on va trouver des stratégies pour pas se griller l'entreprise. Hein. Mais il vaut mieux se griller des entreprises que des salariés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais reprendre ce que ma collègue Agnès dit, collègue d'ONC Développement, qui dit très clairement, donc c'est notre spécialiste de la relation entreprise, et elle dit très clairement, il y a beaucoup plus de chances de travailler avec une entreprise que de risques. Au fond, c'est comme quand vous faites la cuisine. Quand vous faites la cuisine, vous faites tous de la cuisine. Il y a beaucoup plus de chances de réussir un plat que de le louper. Enfin, pas tous, on est d'accord, allez, je parle pour moi, pas pour les autres. Mais il y a beaucoup plus de chances de réussir un plat. Et puis, si on loupe le premier, ben on change, on passe à un autre plat. On dit, ben celui-là, je ne le fais plus, on en prend un autre. Donc, si on loupe avec l'entreprise, on prendra une autre. Et puis, si on loupe que ce n'est pas assez salé, pas assez sucré, ben on modifie un peu, on évolue. Mais si on ne fait pas de gâteau, si on ne fait pas de rôti, on ne progressera jamais. Donc, en fait, si on ne progresse jamais, on ne fera jamais la cuisine, on va mourir de faim. Donc, moi, je préfère à un moment donné cramer un plat, voilà, que ça fume un peu dans la maison, une fois. Je préfère ça, améliorer puis manger. Parce que si vous ne donnez pas à manger aux gens, s'ils rencontrent pas l'entreprise, ils n'ont pas à bouffer. Hein. Donc, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas photo, il faut y aller. Il y a une prise de risque, oui. Alors, il faut la minimiser par de la technique. Voilà, et là, Agnès, les collègues formateurs, les structures trouvent des stratégies pour minimiser le risque. On va développer des stratégies. Je vais donner un tout petit exemple. Par exemple, il y a actuellement une formatrice qui m'a donné un truc astuce auquel on n'avait jamais pensé. Nous, ça fait 30 ans qu'on bosse là-dessus. On n'avait jamais pensé à ça. Vous allez dans une grande surface. et vous allez à l'accueil et vous dites je voudrais voir le directeur. Alors vous connaissez le barrage, il n'est pas disponible, mais ben, c'est pour du boulot, c'est et c'est son job. Donc son job, c'est de casser votre motivation. Voilà, le job de la secrétaire à l'accueil, c'est de casser, c'est normal. Il faut qu'elle protège son directeur, c'est normal. Mais en fait, vous avez une toute petite truc astuce. Vous allez dans les rayons, et puis vous voyez un employé de libre service. Vous lui dites, au fait, c'est quoi le nom de votre directeur ? C'est Monsieur Durand. Très bien, vous allez à l'accueil, je voudrais voir Monsieur Durand. Eh bien, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. On vous passe beaucoup plus facilement Monsieur Durand. Donc, bien sûr qu'il y a un risque, on peut se faire rembarrer, mais je vais trouver des ruses pour casser le risque. Et puis après, quand elles nous disent c'est pour du boulot, c'est d'abord pour travailler une collaboration, nous-mêmes on est employeurs, enfin, on trouve des tas de stratégies. Donc on minimise le risque, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter et il faut le prendre. Et on n'avance pas sans prise de risque. Maintenant, quand on construit une maison, c'est une prise de risque, hein, pour avoir des ennuis, des travaux, mais enfin, quelle chance d'avoir une maison, une jolie maison avec un beau jardin et compagnie, ou d'avoir un appartement, ou de construire un meuble. Voilà, c'est toujours plus une chance de voir une entreprise qu'un risque. Après, il faut l'optimiser, mais c'est fondamentalement plus une chance. Et ça a été très bien dit hein, dans la vidéo. Hein. Les employeurs, finalement, ils sont ouverts, quoi. Ils ont envie de parler. Voilà. Et donc, l'employeur nous dit toujours « Moi, j'ai que 5 minutes à vous consacrer. » Puis en fait, on reste une heure. Alors pourquoi on reste une heure ? Parce que, premièrement, on lui dit « Qu'est-ce que vous faites ? Racontez-nous. » On le valorise. Donc on le valorise. Voilà. Et donc, plus on le valorise, plus il va rester avec nous. Deux, on donne du sens. Même si vous n'avez pas de boulot aujourd'hui, ça pourra servir un jour. Vous connaîtrez des candidats. On donne du sens, objectif. Et puis à la fin, de toute façon, c'est vous qui décidez. Nous, on vous impose personne. On vous propose des candidats, c'est vous qui décidez. Même chose avec le salarié. Nous, on ne vous imposera pas une entreprise, c'est vous qui décidez. C'est paritaire. Il faut qu'on ait une parité entre, et quelque chose de motivant, c'est la parité aussi. C'est une parité entre les salariés et l'entreprise. Tu choisis salarié, tu choisis employeur. Et quand on dit au salarié, l'employeur choisit et toi tu choisis, vous êtes en train de le mettre au même niveau que l'employeur. Or, habituellement, dans une structure, habituellement, classiquement, et c'est compréhensible, ben, le salarié, on a une petite tendance, quoi qu'il en soit, vous avez beau faire de, on a une petite tendance à regarder un peu comme ça. Et puis l'employeur, on a une petite tendance à regarder un peu comme ça. On a, c'est une chance de bosser avec les salariés en insertion. Et ce mot qui est revenu, c'est fabuleux, je viens de dire insertion, là, carton jaune pour moi. C'est une chance de travailler pour un salarié en insertion, je vous le redis. Et c'est une chance de bosser avec l'entreprise. Et après, il faut changer son vocabulaire, il faut dire c'est une chance de bosser avec des salariés en transition et c'est une chance de bosser avec des employeurs. Parce que l'entreprise, c'est un employeur avec qui on bosse.
Merci Nicolas. Alors du coup, si on reprend ce qu'on a vu depuis le démarrage de cette visio, on a donc un objectif clair, un cap qu'on peut fixer à toute la structure pour favoriser la motivation, de la valorisation du salarié parce que c'est ce qui va déclencher la dynamique d'accès à l'emploi et la capacité du salarié à pouvoir décider de ce qui le concerne et de ses choix d'emploi. Et puis, un élément qu'on n'avait pas identifié en amont, mais qui se déroule au fil de la conversation, c'est cette notion de parité salarié-employeur qui est intéressante aussi, et de ne pas mettre l'un sur un piédestal par rapport à l'autre, mais vraiment d'avoir quelque chose d'égalitaire qui permette aussi d'utiliser les mêmes ressorts que ceux qu'on utilise avec le salarié, avec l'employeur. Donc ça, c'est le podium de tête sur les facteurs de motivation. Après, on a identifié également d'autres éléments. Et le premier de ces autres éléments, c'est la mise en action via notamment ce qu'on appelle dans Save Emploi les mises en situation et les mises en relation avec les entreprises.
Oui, alors là, Hélène l'a dit à un moment donné dans la vidéo, là, c'est l'action, là, c'est mettre les gens en action. Pour faire simple, ce qui va bouger les gens, on a vu c'est le trio de tête, mais celui-là aussi il est important, c'est pas le discours qui motive. C'est pas le discours, c'est l'action qui motive. Le discours, il fait croire un peu n'importe quoi, mais c'est vraiment l'action qui va permettre de pouvoir modifier un peu les habitudes et la présentation qu'on a. Quand vous rencontrez des employeurs, oui, la représentation qu'il a des chercheurs d'emploi n'est pas toujours très brillante. D'autant plus s'ils sont locataires du
RSA. Ah, Nicolas, on t'entend plus. Ah, voilà.
C'est bon. Oui, donc, ce n'est pas brillante. La représentation des salariés en transition sur les employeurs n'est pas brillante. J'ai envoyé 20 CV, personne ne m'a répondu, de toute façon, ils s'en foutent. Voilà, c'est ça la représentation, ils s'en foutent. Et puis, une autre représentation, de toute façon, c'est des exploiteurs. Enfin, il y a plein de représentations qui circulent. Et ces représentations sont démotivantes. La représentation qu'on a est un facteur de démotivation. On se crée des représentations qui nous permettent de justifier La représentation, ça permet de justifier de ne pas agir. D'ailleurs, à un moment donné, on a la trouille de l'entreprise en tant que permanente de SIAE et on dit, oui, de toute façon, sur mon bassin d'emploi, il n'y a pas d'emploi, quoi. Et en fait, dans les faits, quand on est dans les faits, on se rend compte que il y a des offres d'emploi sur des postes de peu qualifiés, quoi, qu'il y en a pas mal. Ça tourne, ça bouge, des CDD, des CDI, et pas que des CDD, quoi. Et on se rend compte aussi que sur des postes, il y a plus de CDI sur des postes peu qualifiés à la reprise économique après le Covid que de postes qualifiés. Voilà. Et donc, on se rend compte que dans les faits. Alors, si vous faites un grand discours comme ça aux gens en disant, mais tu sais, il y a du boulot sur le territoire, ça c'est bien, c'est important, ouais, les gens ne vont pas vous croire, quoi. La seule chose qui va vraiment les changer, donc le changement, ça crée de la motivation, le changement, c'est de voir sur place, quoi. Et si à un moment donné, vous avez un salarié qui rencontre un employeur dans un job café, dans un entretien conseil, et que l'employeur dit, mais moi, j'embauche cet été, ça m'arrive, ou moi, j'ai un magasinier qui va partir à la retraite, ou moi, j'ai une couturière qui va s'en aller pendant un an en arrêt maternité. Voilà. Et ben, le salarié revient, dit, ah ouais, d'accord, là, c'est, ouais, je vois, j'ai intérêt à y aller. Si vous avez expliqué à un salarié, si l'encadrant technique s'est échiné pendant des heures et des heures à expliquer à un salarié qu'il avait intérêt à développer cette compétence sur le maniement de tel outil, et puis que, à un moment donné, le salarié s'est mis en tête que l'encadrant technique faisait ça pour l'embêter, quoi. Ce qui n'est pas toujours faux, allez, non, c'est pas vrai. Il s'est mis ça en tête, on ne sait pas pourquoi, parce qu'à un moment donné, parce qu'il est un peu victimaire, j'en sais rien, peu importe la raison. Par contre, s'il va voir un employeur, et que l'employeur lui dit, moi j'ai besoin de gens qui sachent faire ça, et que cette entreprise lui plaît, qu'il a bien accroché avec l'employeur, il revient vers l'encadrant technique, dit, moi je veux développer ça. Et l'encadrant technique s'arrache les cheveux en disant, ça fait 4 mois que je lui dis. Oui, sauf qu'à un moment donné, c'est de l'action en lien avec l'emploi durable, alors qu'avant on était dans l'action en lien avec la formation. Voilà. Il faut te former. Mais pourquoi ? Il faut se former pour l'emploi durable. Et là, c'est un employeur qui le dit. Donc on a quelqu'un qui a un statut fort, donc c'est valorisant, on vient sur la question. On mélange tous les leviers. On valorise. On a une décision, on y va, on a un objectif, et puis on a une action avec un employeur qui vous dit ça. Là, ça fait de la motivation. Autre exemple, sur les postes peu qualifiés, aujourd'hui, à peu près 50% des gens, alors suivant les enquêtes, c'est 40%, suivant les enquêtes, c'est 50%, peu importe, occupent des postes pour lesquels ils n'avaient jamais travaillé avant et pour lesquels ils n'avaient jamais été formés. Et donc, on a plein d'exemples, suite à des tables rondes, des jobs cafés, des rencontres, où des salariés occupent des postes de travail qu'il n'aurait jamais imaginé. Et donc, si on lui dit, t'aimerais travailler dans une entreprise de production, ah non, jamais, non, on ne peut jamais travailler à la chaîne, quoi. Ma présentation, c'est travailler à la chaîne. Donc, non, il est hors de question, travailler dans une entreprise de production. Moi, je veux du lien, je veux de la relation, je veux. Okay, c'est ma motivation. Donc, je veux ça, je vais être en lien avec les autres. Et puis, vous faites un job café dans lequel il y a une entreprise qui fabrique de la peinture, qui est producteur de peinture, qui produit de la peinture. Et puis, la personne se rend compte que c'est diversifié, se rend compte qu'il y a une bonne ambiance dans la boîte, que le patron, il est sympa. Et puis, il se fait une immersion, puis il est embauché, quoi. Qu'est-ce qui a créé cette motivation de bosser dans cette boîte ? Ce n'est pas le discours de l'encadrant, c'est simplement la rencontre avec l'employeur, c'est l'action, quoi. Il y a eu une action, il y a eu cette rencontre, et puis hop, c'est parti. Donc, et d'ailleurs, au passage, les SIAE ont un atout fabuleux, hein. C'est-à-dire que les SIAE ont vraiment, par rapport à leurs collègues de l'emploi, que ce soit Pôle emploi, les missions locales, les PIC qui font du bon boulot, il y a vraiment un truc extraordinaire dans les SIAE, c'est que d'emblée, dès le premier jour, on met sur un poste de travail. Et ça, c'est une force. C'est-à-dire qu'en fait, la SIAE, d'emblée, elle met en action. Lundi matin, tu bosses sur un poste, sur le chantier espace d'air, sur le chantier nettoyage, sur le chantier brasserie, sur le chantier. En mise à disposition, d'emblée, le TTI, l'AI, met en situation de travail chez un particulier, dans une entreprise, d'emblée. Ça, c'est un énorme atout. Et du coup, c'était ça qui manquait un peu au SIAE d'ailleurs, c'est qu'on avait un tremplin fabuleux, cette mise sur poste de travail qui est de mise en action, et puis on attendait 12 mois pour travailler l'entreprise extérieure. Et finalement, le levier qui était la mise en action s'était transformé en « je suis bien ici, moi ». C'est ce qui a été dit là, dans les vidéos. « Je suis bien ici, moi ». C'est sympa, les encadrants sont sympas, ce qui est vrai, on les rencontre. Les CIP sont sympas, c'est vrai. Les directions aussi, les chargés de développement aussi, ils sont sympas. Je suis bien là, il y a une bonne ambiance. Donc, ouais, la transition dure, puis elle dure. Et là, on rentre un peu dans la machine à laver de l'insertion, là. On fait un chantier, on fait 2 ans, puis après on sort, on n'est pas en emploi, puis on est au chômage, puis on se déprime un peu, on n'est pas motivé, puis on revient en insertion, puis on va en stage, et puis... Non, et donc là, en fait, l'idée clé de Save Emploi, c'est on est sur un poste de travail, on est sur une action, ça motive. D'emblée, il faut rebondir sur l'autre, il faut vite rencontrer l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on avait plutôt des SIAE qui, avant, faisaient rencontrer l'entreprise à 6 mois, quand le projet était prêt, etc. Non, c'est, à 2 mois, quoi. À 2 mois maintenant, beaucoup de CCE disent à 2 mois, il faut qu'il y ait une immersion, il faut qu'il y ait une rencontre. Alors, dans l'idéal, ça serait à 3 semaines. Oui, je pense qu'il faut que Cerve Emploi travaille pour que dans 3 ans, 4 ans, on soit à 3 semaines, d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas y aller trop vite, on y va à notre rythme. Certainement, le fait que très vite, on est sur une action et on rebondisse, voilà, ça, il y a des contraintes de production, il y a des contraintes de production qu'on a levées depuis 4 ans, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas encore levées, donc il faut le temps d'avancer. C'est, quand je dis on, c'est la CIE qui est la main qui trouve des idées. Hein. Donc l'action, c'est vraiment un facteur de motivation. Être sur un poste de travail, aller dans une immersion, être en, c'est pas le baratin. Et du coup, on inverse là aussi la tendance. Là où on critiquait d'abord, on posait le problème, on valorisait. Là, on inverse. C'est avant de poser, de conseiller la personne, on met en situation. Et c'est après qu'on a le discours. C'est-à-dire que le discours, la discussion, le conseil vient après. Tu as eu une immersion, ok, qu'est-ce que tu as envie de développer? Vu ce que m'a dit l'employeur, tu as peut-être intérêt à faire ça. Voilà. Et vu ce que m'a dit l'employeur, tu as peut-être intérêt à faire ça, ça a beaucoup plus de poids que de dire tu auras intérêt à faire ça. Parce que je pars d'une action, je pars d'une autre personne. Voilà. C'est la même chose, hein, sauf que j'ai créé des conditions. Au lieu de dire comme ça, je dis plutôt après l'action, le discours après l'action. Pour faire simple, on réfléchit un petit peu quand même avant, mais on réfléchit plutôt après l'action. C'est plutôt là qu'on va poser, qu'on va faire le constat. Et par exemple, dans ce truc très, très simple, une des conditions qui me paraît favorable, c'est que au retour d'une immersion, par exemple, au retour d'un CDD, au retour d'une intérim, quand la personne rentre, c'est que le point se fasse à deux entre la personne qui s'occupe plutôt, on va dire, de l'accompagnement, de la relation entreprise, et la personne qui s'occupe plutôt du travail de production, la grande technique, ou le chargé de développement, ou le chargé de mise à disposition. Ça se passe à deux, parce qu'on travaille sur deux thématiques, la médiation, la production, et c'est pas uniquement le boulot du CIP, ça. Ça doit vraiment être partagé. Et ça, c'est un truc qui a été bien compris par les CIE de faire ça à deux. Alors, des fois, c'est pas possible, hein, parce qu'il y a une question de temps, mais si on le fait une fois à deux, une fois à un, une fois à deux, une fois à un, c'est pas grave, ça marche aussi.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de ce podcast dédié à la motivation et réalisé dans le cadre du programme Cerve Emploi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir les 3 derniers leviers que nous pouvons actionner pour favoriser la motivation des salariés en transition professionnelle. Merci à l'ensemble des personnes qui ont participé à la réalisation de ce podcast. Cerve Emploi est une initiative lancée par la Fédération des acteurs de la solidarité, soutenu par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, le Fonds social européen, la Fondation de France et AG2R La Mondiale.